Les voies de service, mercredi le 18 avril 2018. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance au micro de Canal M pour les voies de service en l'absence d'Isabelle Falardeau, encore une fois notre collègue qui a de la misère avec un printemps qui s'étire, qui n'arrive pas finalement, plutôt un hiver qui s'étire. On peut pas dire qu'on a un printemps encore aujourd'hui.
Et le dicton en avril ne te découvre pas d'un fil s'applique vraiment cette année.
C'est très vrai aujourd'hui. Bon, on espère que dans quelques jours ça va être terminé. Donc vous venez d'entendre aussi la voix de Serge Baradet, toujours au poste.
Oui.
Bonjour Serge. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, en tout début d'émission, je vais faire un retour sur l'affaire Colborne de la semaine dernière.
Colborne, oui. Et non pas,
à Chambly. Oui, et non pas Claiborne.
Et non pas Colgate non plus.
Et non pas Colgate. Ensuite, dans la presse plus de dimanche, il y avait un article intéressant sur des sports improbables dans l'histoire.
OK. Ouais.
Juste un, il y en a quelques-uns, mais juste un, voiture contre taureau.
Ah, oui, ça semble
assez particulier.
Assez...
Oui, il y a le lancer du renard aussi, en tout cas, il y en a, oui. C'est assez particulier. Alors, c'est dans la presse plus. Donc, ensuite, dans la revue Cap au Diamant, j'ai trouvé deux articles très intéressants. Savez-vous qu'une paire de culottes a déjà fait tomber un gouvernement?
Ah, c'est peut-être, ça serait une idée à retenir, peut-être.
Les culottes à Vautrin, ça vous dit rien?
L'expression me dit quelque chose, mais je connais pas le contexte.
En régie, Maurice, ça vous dit quelque chose aussi?
Oui, je me souviens de la série Duplessis.
Les culottes à Vautrin, Et ensuite, toujours rapport à l'Union nationale, un pont solide comme l'Union nationale, qui fait référence au pont entre Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières, s'est effondré. Et on disait que Duplessis avait dit que c'était... Il est aussi fort, il est aussi solide que l'Union nationale, il tombera jamais. Il est tombé.
C'est bon.
Et voilà.
Et de mon côté, je vais vous parler un peu de la succession de Johnny Hallyday. On en entend beaucoup parler dernièrement. Et en deuxième partie, je vais vous lire un article qui parle d'un livre, qui parle du domaine de la musique en général. Ah, voilà. On est de retour avec...
L'ancien gouverneur général, John Colborne.
Colborne.
Oui, qui a... c'est toute la polémique au sujet de ce qui arrive à Chambly. On veut débaptiser un parc qui s'appelle Colborne
et une rue.
Oui, qui vont devenir Ostigui.
Le parc, c'est pas très grave, mais la rue, on sait que ça peut, ça peut occasionner des dépenses assez importantes.
Oui, ben c'est ça, à cause des ceux qui ont des commerces et qui doivent refaire leur... Si vous demeurez sur cette rue-là, et alors vous devez avertir tous vos fournisseurs, tout ça. Ouais. Quoi qu'on reçoit moins de courriers maintenant, mais en tout cas, pour le gouvernement, pour l'impôt.
Les livreurs de pizza.
Les livreurs de pizza, oui. Alors, juste un petit résumé. Oui. L'héritage de l'ancien gouverneur général, John Colborne, disparaîtra de la toponymie québécoise. Le parc et la rue Colborne changeront de nom pour Ostigui, conditionnellement à l'adoption du règlement lors de la séance plénière du conseil municipal du 16 janvier. C'est d'ailleurs le désir du maire de Chambly, Denis Lavoie, de voir Colborne disparaître de la carte qui a motivé le changement de nom de l'actuelle rue Ostigui à Petrozza, comme annoncé la semaine dernière, comme j'en avais parlé. Alors, c'est ça, c'est facile. Isabelle et vous m'aviez demandé de savoir pourquoi on avait nommé le parc Colborne.
Effectivement, parce qu'on savait qu'au départ, il n'avait pas été très bien.
Non, c'est lui qui a réprimé la révolte des Patriotes de 1837, alors qui a fait beaucoup de morts.
Donc, on suppose que c'est des anglophones qui ont nommé ce parc-là.
Oui, non, vous allez voir.
Ah, voilà, c'est pour ça qu'on posait la question.
Oui. Et d'ailleurs, dans les. De Colborne, les opposants ont fait Colburn.
Brûlé.
Ouais. Alors, le gouverneur Colborne, dans la révolte des Patriotes, son rôle n'a pas été glorieux, a affirmé M. Lavoie. Ce n'est pas mon rôle de faire le procès de Colborne, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de rue Adolf Hitler en Israël, comme... M. Colborne a détruit des villages, a pendu des Patriotes sans procès. Je ne vois pas pourquoi, moi, je vais honorer ça. Explication. Le quartier dans lequel sont situés la rue et le parc Colborne dans le district Antoine-Louis Fréchette, près de l'école de Salaberry, a été construit dans les années 60.
Dans les années 1960.
1960, oui, 1900, quoi, oui. Pas 1800, 1960. Ouais. Donc, on pense que les gens qui l'ont nommé n'ont pas vraiment...
Connaissaient pas l'histoire,
puis n'ont pas vraiment fait le lien. Parce que M. Lavoie dit, à ce moment-là, quelqu'un a manqué le bateau. Et a-t-il déclaré concernant le choix de Colborne. Bon, faire une erreur, c'est une chose, mais ne pas la corriger, c'est bête. Dans le fond, tu sais... Donc, moi, M. Colborne, il part de Chambly. Alors, voilà. C'était sur le site de la ville de Chambly.
Ça répond à notre question.
Et voilà.
C'était tout simplement une erreur de vérification.
Oui, oui.
Peut-être
oui.
qu'il y en a qui trouvaient que le nom sonnait bien. Peut-être que c'est dans un quartier où les noms de rue commencent tous par des C, je sais pas.
Peut-être,
oui. Chambly. Rendu assez haut. On dit...
Donc, maintenant, premier sujet... Des sports improbables dans l'histoire.
Oui.
C'est un article de Laurent Turcot de la presse Plus de Dimanche. Laurent Turcot est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs. Alors, hockey, football, baseball et soccer. Disons que ce sont des sports assez convenus. Ne serait-il pas temps de s'intéresser à certains sports anciens ou oubliés? Edward Brooke Hitching, dans son Encyclopédie des sports oubliés, publiée chez De Noël en 2015, propose quelques pratiques pour le moins inusitées et qui vont faire lever les cheveux aussi aux à peu près tous ceux qui aiment les animaux. Bon, la première, voiture contre taureau. En 1901, Henri Deutsch de la Meurtre, riche mania du pétrole, voulait offrir un spectacle nouveau aux habitants de Bayonne, en France, qui se réunissaient dans les arènes où la corrida était très médiatisée. Alors, pour faire face au taureau, une célébrité locale, ce taureau-là, Ledesma, montait à bord d'une Peugeot 12 cylindres conduite par M. Chevrin, le chauffeur personnel de l'homme d'affaires. La bête et le véhicule se firent face. M. Chevrin passa à la première vitesse et la voiture se mit en branle. En réponse, le taureau frappa le sol du sabot, souffla dans les naseaux, tourna la queue et détala. La voiture poursuivit l'animal, mais rien à faire, ce dernier refusa de faire face à la machine. Et là, ce qui est le plus drôle, de la Meurtre fit alors entrer six autres taureaux qui tous refusèrent, certains préférant sauter la barrière des spectateurs plutôt que d'affronter la voiture.
Donc les taureaux sont plus intelligents qu'on l'avait pensé.
Ouais, ouais.
Ils se sont dit « Non, je m'attaque pas à ça.
» Ensuite, la lutte sur pieuvre.
Oh, ça c'est assez...
Avez-vous entendu parler de participation? Non.
Ça passe. J'imagine que si on n'en entend plus parler, ça n'a pas vraiment fait fureur.
Mais on monte aux années 20. Dans les années 20, un certain Van der Hoven a l'idée de pêcher des pieuvres géantes de la côte du Pacifique pour les vendre à la communauté chinoise locale. Il s'associa à O'Rourke, un ancien garde-côte, considéré comme le père de la lutte sur pieuvre. Une fois la pieuvre trouvée, le plongeur, attaché à une corde, se faisait enserrer par l'animal. Bon.
Ça commence bien.
On les hissait ensuite et s'ensuivait la lutte sur le bateau, qui résultait toujours par la mort de l'animal. Le réalisateur et producteur américain Cecil B. DeMille
ça me dit quelque chose, ce nom-là,
admirait le travail d'O'Rourke et l'a même engagé pour le filmer. En 1963, en organisant un championnat du monde, 1100 plongeurs y prenaient part pour une remontée de 25 pieuvres, certaines pesant jusqu'à 26 kilos. Mais là, 1100 plongeurs pour une remontée de 25 pieuvres, que c'est pas tous les plongeurs qui ont plus de balles. En tout cas, c'est ce qui est écrit.
Il juste chacun une tentacule.
Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, le saut de Barry.
Oui, en patin. Ça, je me souviens d'avoir déjà vu ça.
Ouais.
Mais les batailles de pieuvres,
ça n'a jamais
été filmé. Ça, on n'a jamais vu.
Ben, demain, il l'aurait filmé, ça doit être dans les. Probablement peut-être sur Internet, sur YouTube, on peut peut-être réussir à voir ça.
Les sauts de Barry, ouais. Ça, je me souviens d'avoir vu ça.
Oui, on a souvent l'impression que les héros du samedi ont lancé la mode. Mais c'est en fait beaucoup plus vieux. L'activité la plus à même de détruire la colonne vertébrale de l'homme s'est mise en place au début du 20e siècle. C'est Ed Lamy des États-Unis, champion de patinage de vitesse, qui en 1912 établit le record à 14 tonneaux, soit une distance de 8,43 mètres.
C'est quand même, oui, c'est un long saut.
Ouais. On assiste ensuite à un regain de popularité dans les années 50 avec un premier tournoi international en 1951. Le sport se développe surtout aux États-Unis et au Canada. La Fédération canadienne de saut de Barry alla même jusqu'à organiser une démonstration du sport à l'Île-la-Mer en 1994. Mais cela ne porta pas ses fruits. Un porte-parole du Comité international olympique répliqua, pour expliquer son refus de voir le saut de Barry aux Jeux olympiques, « Cela semblait être un sport très brutal. Personne n'y arrivait jamais. Ils finissaient tous par retomber sur leur postérieur. »
Bon.
Bon, le sport qui est le plus... qui me rebute le plus, moi, quand je l'ai lu, là. Le lancer du renard.
Ouais, c'est...
Ouais, c'est assez particulier. Le lancer du renard... ou « Quand la cruauté rencontre la stupidité
mm-hmm. ».
La pratique se développe surtout au XVIIe siècle en Angleterre et en Allemagne. Ses origines? Une très vieille superstition. Pour se porter bonheur durant l'hiver, on prenait un chien ou un renard, symbole de l'esprit hivernal malfaisant. Première fois que j'entends dire qu'un mm-hmm. chien est associé à un hiver malfaisant. Là. Renard peut-être, mais... Et on le lançait à l'aide d'une couverture jusqu'à ce qu'il meure.
Ah. Hum. C'est un sport, ça.
Ouais. En quoi consiste...
Il y a quelqu'un qui gagne.
Ouais.
Je comprends pas.
Alors, on pose la question, en quoi consiste ce sport? Bon. Il fallait envoyer des renards le plus haut possible dans les airs.
Okay.
On étendait sur le sol une bande de tissu ou de tulle, un tissu à rebondir, un peu l'équivalent de la bascule, je
okay,
comprends
ouais,
bien.
Ouais. Trample,
ouais. Les lanceurs tenaient chacun une extrémité de la bande détendue en son milieu et attendait. On relâchait des renards de leurs enclos. Les animaux couraient sur le terrain avant de se jeter par inadvertance dans la fronde, dans ce tissu-là. Donc, une partie du plaisir consistait à observer l'animal se débattre en l'air pour essayer de retomber sur ses pattes. Un chat retombe sur ses pattes, mais un chien, non, je pense.
Je ne sais pas.
Le renard.
Je pense pas qu'on... On n'a pas l'habitude de tester.
Non, non. Ben, le chat, on sait que ça retombe sur ses pattes.
Les autres l'ont testé, mais
ouais,
pas.
Ouais. Donc, les concurrents traquaient les animaux blessés et les achevaient joyeusement à coups de massue. On relâchait même des lapins, parfois, pour continuer. Il y aura parfois de véritables hécatombes. Bon, en 1747, sous Auguste III, roi de Pologne, le lancer fit mourir 414 renards,
oh boy.
181 lièvres, 39 blaireaux et un chat sauvage.
Et une souris verte.
Une souris verte. Oh. Le dernier sport, l'autopolo.
Ah,
le polo à l'auto.
Ça, j'ai déjà entendu.
Ah oui?
Où
ah,
j'ai
ah.
déjà vu une séquence dans un film ouais. avec des vieilles autos.
Ah oui, oui. Ouais. Okay. L'idée de remplacer les chevaux par des voitures naît en 1902. Lors du premier match d'autopolo, le Chicago Daily Tribune écrit « La partie se déroule si vite que l'œil du spectateur inexpérimenté a du mal à suivre. » Le modèle Ford T, sorti en 1908, est vite adopté par les amateurs d'autopolo en raison de son côté abordable, sa légèreté, et sa bonne résistance aux chocs fréquents. Dans la voiture, on retrouve un joueur qui conduit et un autre qui a le maillet pour frapper. C'est pas le même qui conduit mm-hmm. qui frappe. L'arbitre se déplace à pied et le ballon est gros comme un ballon de soccer. Il n'est pas rare que les voitures se retournent, et si l'une d'entre elles se retrouvait coincée, la tête en bas, c'était à ses occupants d'en sortir et de la remettre à l'endroit. Il s'agit là d'un joyeux mélange d'agressivité et de rudesse digne d'un derby de démolition. Certains pilotes publient souvent la balle Certains pilotes oublient souvent la balle pour mieux foncer dans l'adversaire.
C'est ça, c'est l'ancêtre
ah,
du
ouais,
derby.
De démolition. Malgré une large couverture médiatique du sport dans les années 1910, l'enthousiasme passe dans les années 30 et le sport est oublié. Alors voilà.
C'est quand même moins cruel que le lancer du...
Ah, du renard. Celle-là, quand je l'ai lu, me demandais si je devais aller en nombre. Je coudonc, bon, c'est l'article.
Ouais, ben, quand même, on tient à spécifier qu'aucun animal n'a été maltraité pendant l'enregistrement de cette émission.
Non, c'est ça, ouais.
On n'a rien testé. We'll be right back. Donc, je vous parle de la succession de Johnny Hallyday. En fait, depuis le décès de Johnny Hallyday, j'ai lu aucun article sur lui. Je me disais, de toute façon, il y a plein de choses qui se disent partout, puis ça valait pas vraiment la peine. Mais là, c'est parce qu'il y a eu quand même quelque chose qui est arrivé vendredi, le 13 avril, qui est vendredi dernier. Et le titre de l'article que j'ai trouvé dans Le Figaro, qui sont probablement les mieux placés pour parler de leur Johnny. Succession Hallyday, l'impact du verdict du 13 avril sur l'album posthume. Parce qu'on sait que Johnny était en train d'enregistrer un album. Après la décision du tribunal de Nanterre de geler les biens du rocker et de refuser le droit de regard à Laura et David, ses deux enfants, sur « Je te promets », qui est le titre de l'album, la voie est dégagée pour la sortie de l'album posthume du Taulier. Je sais pas pourquoi le Taulier, à cause de... Parce qu'il chantait le pénitencier dans les années 60.
J'ai pas mal, le Taulier. Hein? Le Taulier.
Le Taulier. Hein? Bon, en tout cas. Vendredi 13 avril, la décision tant attendue est tombée. Le tribunal de Nanterre a statué sur le gel des biens français de Johnny Hallyday et a refusé le droit de regard à David et Laura Smith sur l'album posthume de leur père, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre d'un cancer du poumon. Une demi-victoire pour Laetitia. Nous nous réjouissons de la décision de ce jour du tribunal de Nanterre qui confirme ce que nous avons toujours soutenu, à savoir que le moral sur le dernier album a été exercé du vivant de l'artiste, sans contestation possible, explique Maître Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia. La volonté de Johnny Hallyday a donc été respectée par le tribunal. David Hallyday et Laura Smith n'ont pas obtenu gain de cause pour le droit de regard. Il n'y a pas lieu à référer sur la demande de communication de la maquette, la bande mère ou le fichier original des 10 titres devant composer l'album, peut-on lire dans l'ordonnance du référé rendu ce vendredi, estimant, grâce aux preuves fournies par Laetitia et la Warner, que Johnny a bien validé lui-même les chansons. Une demi-victoire pour les avocats des aînés du rocker. Si le tribunal ne fait pas droit à leur demande de droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday, c'est qu'il considère que celui-ci était suffisamment avancé pour écarter le risque de dénaturation de l'œuvre, ont communiqué les trois avocats de la fille aînée de Johnny. Telle était la volonté de Laura Smith sans vouloir en aucune façon bloquer la sortie de cet album. Une victoire teintée quelque peu d'amertume pour les fans pris en otage dans cette guerre des clans. La sortie du disque ne devrait donc plus être retardée. Date de sortie, nombre de titres, plutôt rock ou chansons, voici ce que l'on sait de l'album posthume du rocker. Concernant la date de sortie, on attend que ça, affirme William Attia, président du Zénith Fan Club du Elvis français, contacté par Le Figaro. À la tête de l'association bretonne des amis de Johnny, Yves Lezalic, lui, aimerait voir l'album sortir le 15 juin, date d'anniversaire du défunt rocker. J'imagine que ce serait une belle attention. Un bel hommage, selon lui. Warner, la maison de disques du chanteur, n'a pas donné de date officielle. Avec le nouveau rebondissement de l'affaire de l'héritage, nul doute que l'on devrait en savoir plus très prochainement. Avec tout ce qui se dit dans les médias, on ne sait plus trop ce qu'il faut croire ni à quoi s'attendre, confesse William Attia, Agar. Conséquence de la boulimie médiatique qui entoure l'idole des jeunes et ses proches depuis sa mort. Qui a collaboré à l'album? Après l'hommage populaire du 9 décembre, les musiciens de Johnny, Maxime Nucci, déjà à la baguette de l'album précédent, De l'amour, et Yarol Poupeau, guitariste, se sont mis au travail, quitte à retarder leur projet personnel. Autre collaborateur sur le projet, l'agent de star Sébastien Farrand, qui manageait Johnny sur cet opus. « Ce que mon mari ne voulait pas, c'est qu'on discute de ses consignes et de ses choix. C'est pour cela d'ailleurs qu'il avait choisi de travailler avec Sébastien Farrand. Il voulait faire de la musique comme il l'aime », déclarait Laetitia au Point il y a quelques jours. En février 2017, Johnny en personne avait posté une photo où l'on pouvait le voir entouré de ses musiciens. La publication était accompagnée du message « En studio pour un nouvel album, Fuck the Cancer ». Je le cite, c'est pas moi qui dis ça. Un album rock qui lui ressemble. Quelques privilégiés ont eu la chance d'écouter le disque. Fabien Fassien, ami du rocker, fait partie de ceux-là. C'était génial, très rock, rockabilly même par moments. Tout ce qu'on aimait, déclarait-il à Paris Match le mois dernier. Même son cloche chez Laetitia. Dans son interview au Point, elle confiait que l'album était vraiment rock, un album qui lui ressemble, en somme, toute la musique qu'on aime. Au total, le disque intitulé « Je te promets » comportera 10 titres, tous validés par l'idole des jeunes. Tous les gens qui ont pu l'écouter se souviennent d'une ballade magnifique, « J'en parlerai au diable », où il met en garde ses héritiers. Un titre prophétique, à voir la bataille juridique qui divise le clan Hallyday. En outre, on peut s'attendre à des chansons empreintes d'amertume et de douceur avec les titres au nom évocateur « Pardonne-moi » et « Je ne suis qu'un homme ». Les autres morceaux, « Made in Rock'n'Roll »,« Back in L.A. » ou « L'Amérique de William » indiquent la couleur très rock de cet album, ainsi qu'une inspiration puisée outre-Atlantique. Nul doute que le disque sera le plus gros succès de l'année. Ça, j'en doute un peu. Peut-être en Europe, en France, je ne sais pas, au Québec, on n'a jamais été des grands, grands fans de Johnny. Sûrement, c'est fan ici, mais je ne pense pas que c'était une super grosse vedette à ce point-là.
Je pense pas dans les années...
Peut-être dans les années de la musique qui est liée, 60 surtout, 70, mais je ne sais pas. Peut-être pas à ce point-là. Je pense que cet album va marcher, affirme William Attia. Je m'attends à quelque chose de chouette. Johnny a toujours fait des choses chouettes. Les chiffres lui donnent raison. En près de 60 ans de carrière, Johnny a récolté 10 victoires de la musique et a enregistré environ 50 albums écoulés à 110 millions d'exemplaires. Ça, je serais curieux de savoir. D'après moi, sur 110 millions, il y a peut-être 100 millions en Europe et peut-être 10 millions en Amérique. Ce qui fait de lui l'artiste ayant vendu le plus d'albums en France. C'est vrai qu'il en avait la gueule.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira deux le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, mais je ne perdais pas au change, pardi. Et bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Et un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Johnny Hallyday et la pièce Le Parapluie.
très approprié aujourd'hui, le parapluie, ah oui. Encore une fois. Donc, Serge.
Oui, moi, ce que, question qui me chicote pour oui. l'aider, c'est que on parle, évidemment, dans le jugement, là, c'est les droits français, européens ou français?
Oui, ben, en fait, là, ce que je comprends de cet article-là, c'est qu'on parlait surtout de tous ces biens en Europe avaient été gelés. Ouais, là, on parlait seulement de l'album.
Ah, OK. Uh-huh.
Ce qu'il faut parce suivre
que,
pour l'album.
Parce que je pense qu'il y a des biens aux États-Unis, ouais. parce qu'il y a vécu aux États-Unis.
Oui, puis la loi française, je ne pense pas qu'elle est
non, c'est ça, juridique. Ouais. Non. Donc pour moi, il y a reste, des.
Ça risque d'être encore compliqué.
Oui,
long, ça.
Et
cette succession.
Ouais. Moi, j'ai des petites citations.
Oui.
Mais là, c'est délicat parce que. Oh là là.
On est juste entre nous. Là.
On est juste entre gars, oui. Maurice, vous nous promettez, Maurice, là, la.
Des écarts.
La discussion la plus totale, Maurice.
Absolument.
Oui, d'accord. Parce que là, il y a Hélène qui va nous succéder à 10h.
Oui, mais. Elle sera on va se sauver vite avant qu'elle arrive. Alors.
De Sacha Guitry, qui adorait oui. les femmes. Ce qui fait rester les femmes, c'est la peur qu'on soit tout de suite consolé de leur départ.
Ah, c'est. Oui,
c'est du Guitry, ça, oui. Épouser une femme qui a 20 ans de moins comporte deux risques. Soit elle s'en va, soit elle reste.
Oui, bon, c'est pas mal.
Il y a des femmes, encore Guitry, il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les rattache encore à leur mari.
Ah, mais ça, oui, ça n'en prend un lien. Ça, celui-là, c'est un bon.
Ouais. Là, il s'en va sur les hommes, M. Guitry, là. Bon, il tape sur les gars. Il vaut mieux se taire et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser plus aucun doute.
Oui, celle-là, j'avais déjà entendu une ouais. autre version, mais effectivement, mm-hmm. je ne savais pas que ça venait de lui.
Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a à part ça, mon Dieu? Je vais changer un peu, là, parce que... Ah, voilà, la peau.
Sauvé par la musique.
Oui. Adrien Helvétius, une femme qui s'en va avec un amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle.
Ah, ça, c'est bien. Ça, je l'aime.
Oui, oui, oui.
Ça met fin à la première partie de l'émission Les Voix de service du 18 avril. On vous revient dans quelques minutes après la pause pour la deuxième partie.
C'est le temps de
On vient d'entendre Ludovic Allary et l'appartement.
Et c'est Daniel Lachance ici au micro de Canal M et on est de retour avec l'émission Les voies de service du 18 avril 2018. Mm-hmm. Et Serge, de quoi on parle maintenant?
J'ai deux articles. Ben, je vous donne le choix, tiens. Voulez-vous entendre l'histoire des culottes à Vautrin ou le pont solide comme l'Union nationale? Je commence par quoi? Le deuxième sujet viendra plus tard.
Les culottes, hein? Les culottes à Vautrin. Parce qu'on connaît l'expression, mais on veut connaître l'histoire.
Écoutez, messieurs, là, on ne parle pas de petites culottes.
OK.
On parle de culottes.
Bon, ben l'autre. Le pont. Non, non, on va y aller avec Vautrin.
Alors, c'est tiré de la revue Cap au Diamant de l'automne 2005, un article de Jacques Lacourcière. Mm-hmm. Alors, intitulé « Quand une paire de culottes fait tomber un gouvernement ». Depuis 1897, les libéraux dirigent le gouvernement de la province de Québec. Depuis 1920, Louis-Alexandre Taschereau est le premier ministre. Alors, on est en 1936, donc il dirige sans interruption de 1897 à 1936, c'était libéral. C'était un méchant règne. En 1936, donc, des journalistes et les membres de l'opposition ne se cachent plus pour accuser les libéraux de corruption. Pas de commentaires.
C'est ça.
Ça messieurs, messieurs,
pas
non, non, bon. Ben ouais, on a soit, l'histoire se répète. Ben ouais. Alors, Maurice Duplessis, député de Trois-Rivières, et les deux parlementaires, avec Paul Gouin, chef de la nouvelle formation politique, l'Union nationale, s'est juré d'avoir la tête du premier ministre Taschereau et de faire tomber le gouvernement. L'occasion se présente pour lui grâce à l'analyse du contenu du livre des comptes publics. Chaque année, en effet, est publié un ouvrage qui décrit sèchement toutes les dépenses effectuées par le gouvernement au pouvoir, ministère par ministère et département par département. La possibilité existe pour les députés d'opposition de demander la convocation du Comité des comptes publics. En 1936, il y a plus d'une dizaine d'années que ce comité n'a pas ou presque pas siégé. La loi a prévu que 36 députés, soit 20 représentants du parti au pouvoir et 16 de l'opposition, compose le dit comité, dont le quorum est fixé à 15 membres. Duplessis a passé des heures et des jours à éplucher les comptes publics et à relever matière à scandale. La première séance du comité a lieu le 7 juin devant une foule de curieux. Léon Cassegrain, député de Rivière-du-Loup, dirige les séances à titre de président du comité des comptes publics. Le premier témoin appelé à comparaître est le sous-ministre de la colonisation, Louis-Arthur Richard. Duplessis lui fait avouer que des chèques destinés à des colons n'ont jamais été remis à ces derniers et que le député de la circonscription les a gardés pour lui, le méchant. C'est le cas du député de Gaspé-Sud, Alexandre Chouinard. À travers les témoignages de Richard, on découvre que la corruption et le patronage étaient présents au ministère de la colonisation. Le leader de l'opposition va s'acharner sur ses victimes de prédilection, des cas riches en scandales. Charles Lanteau, assistant procureur général. Irénée Vautrin, ministre de la colonisation.
Le voilà, notre Vautrin.
Le voilà. Et Antoine Taschereau, comptable de l'Assemblée législative et frère du premier ministre.
Ah.
Voilà, dans la famille. Duplessis accepte mal l'arrogance de Lanteau, qui a des allures de grand seigneur. Celui-ci sera responsable du patronage libéral à l'intérieur de toutes les cours de justice de la province. Ça, c'est inquiétant. De plus, il est payé par le gouvernement, en sus de son salaire comme assistant procureur général, pour les causes qu'il plaide au nom de la province. Eh bien,
c'est assez confortable, quand même.
Oui. Enfin, il a des honoraires comme avocat de pratique privée. Voilà. Ah, Duplessis lui apprend, parce que lui, semble-t-il, ne le savait pas, qu'il a reçu de la province, pour les 8 années précédentes, l'imposante somme de 139 875 $ et 94 cents.
Mais ça, on est dans les années
1936. Aujourd'hui, c'est sûrement une couple de millions. Là.
Sûrement, oui.
L'historien Robert Rumilly, citant le compte-rendu scénographique de l'enquête, rapporte mot à mot une partie du témoignage de Lanteau. Alors, un des membres du comité des comptes publics, député de Montréal-Saint-Louis, Peter Berkovitch, va se porter à la défense de son confrère libéral. Là, c'est du... Je vous lirai pas le texte parce que c'est un peu...
Ouais, nous autres, on veut savoir les culottes. Ouais.
Calmez-vous,
c'est
quoi, l'histoire? calmez-vous. Bon. Le ministre Vautrin sera plus maltraité que Lanteau et Duplessis le couvrira de ridicule. L'enquête permettra d'apprendre que le ministère de la colonisation verse un cent par repas aux colons et que le ministre a dépensé 1 592 $ pour moderniser son bureau. Que le gouvernement achète au Nouveau-Brunswick les pommes de terre qu'il destine aux colons. Que Vautrin, le monsieur Vautrin, utilise le véhicule du ministère pour aller jouer au golf. Qu'il avait acheté, aux frais des contribuables, une paire de culottes qu'il portait lorsqu'il rendait visite aux colons de l'Abitibi.
Voilà.
Mais culottes qu'il avait remises au gouvernement quand même.
OK.
Alors, les culottes à Vautrin seront un sujet de prédilection lors de la campagne électorale suivante.
Donc, ces culottes-là appartiennent au gouvernement.
Au gouvernement, oui. Okay. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle, petit aparté, là, me rappelle, c'est ça, moi, je suis dans 50, alors, 36, c'était quand même pas loin, et dans les discussions de famille, quand arrivait une élection, tout ça, on faisait allusion aux culottes à Vautrin, là, qu'on voulait pas se retrouver encore avec une histoire des culottes. Ou quand quelqu'un faisait quelque chose de croche, ah, il va encore s'acheter, il va être comme Vautrin, il va s'acheter des culottes. Je me rappelle que mes grands-oncles, là...
Ben, je me souvenais d'avoir déjà entendu l'histoire, l'expression, mais je savais pas ça.
Alors, si les culottes à Vautrin ébranlent le gouvernement Taschereau, le témoignage d'Antoine Taschereau, le frère du premier ministre, sera catastrophique. En tant que comptable de l'Assemblée législative, c'est lui qui est responsable du salaire de tous les membres de cette dernière. Les sommes nécessaires pour acquitter ce qui est dû ou ce qui sera dû, lui sont remises à son ordre, somme qu'il dépose à la Banque canadienne nationale, succursale de Donnacona, où son garçon, Jean-Thomas, est gérant.
Bon.
Antoine Taschereau encaissait pour lui les intérêts. Ce témoignage est de trop pour le premier ministre. On apprendra que 42 personnes, plus ou moins apparentées à Louis-Alexandre Taschereau, avaient reçu ou recevaient de l'argent du gouvernement de la province de Québec. Le 11 juin, à 10h35, le premier ministre se rend chez le lieutenant-gouverneur Essioff Léon Patnaud pour remettre sa démission. Des élections générales sont fixées au 15 août suivant et peu après-midi, le 11 juin, Adélard Godbout est assermenté et devient le 17e premier ministre jusqu'à l'élection, parce qu'à l'élection, c'est Duplessis qui avait remporté l'élection. Et voilà, les culottes à Vautrin.
L'histoire des ça ressemblait un petit peu à ce qu'on peut appeler de la collusion, toute cette organisation.
Un peu.
Tout le monde était un peu.
Un petit peu.
Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tantôt, je vais vous lire un article qui parle un peu de rétribution équitable dans le monde de la musique. Un article qui est paru ce week-end dans la Presse Plus, le 15 avril. Un livre d'Alain Brunet qui va apparaître sur le sujet. Dans « La misère des niches », le titre du livre, le journaliste Alain Brunet brosse un portrait dévastateur de l'univers de la musique et, par extension, de tous les producteurs de contenu. Les artistes musicaux sont, selon lui, les premières victimes de la numérisation et de la concentration de la diffusion entre les mains de quelques acteurs. Pendant que ces derniers s'enrichissent, les musiciens s'appauvrissent au point de ne plus être capables de gagner décemment leur vie. Peut-on arrêter cette spirale destructrice? Alain Brunet croit que oui. Et ce qui suit, c'est une entrevue sur le livre, donc c'est questions-réponses. C'est la Nathalie Collard, qui a écrit l'article. Donc, c'est elle qui pose des questions et Alain Brunet qui répond. À quel moment as-tu observé que les choses changeaient dans l'industrie de la musique? Et Alain Brunet répond. La première chose qui m'a frappé, ce sont les revenus d'iTunes qui étaient minimes et ne comblaient pas les pertes encourues par la chute des ventes des produits physiques, les disques. C'était un premier signe et la tendance ne s'est jamais inversée. Le même phénomène s'observe dans d'autres milieux, le journalisme par exemple, mais la musique a mangé la claque avant les autres. Ces années-ci, la tendance s'est légèrement inversée et on observe une certaine croissance des revenus. Mais en y regardant de plus près, on voit bien que la croissance est liée à une poignée de super mégastars, les Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber et compagnie, qui produisent des dizaines de millions de clics et ramassent tout. Ce sont eux qui font de l'argent, les autres survivent à peine. Et les autres, ce sont les niches. Facebook, YouTube, Google ont créé des habitudes de consommation tellement ciblées que tout est devenu une niche. Tout le monde en parle est une niche, l'émission elle-même. Mm-hmm. Seuls les très, très gros font de l'argent. Or, les gens qui ont un rayonnement de 20 000, 50 000 ou 100 000 personnes pourraient vivre aussi si on avait un mode de rétribution équitable. L'autre effet pervers de tout ça, c'est la chambre d'écho créée par les algorithmes. On se retrouve devant une immensité de contenu et la plupart des gens sont très mal orientés par ces algorithmes créés par des mathématiciens et des informaticiens. On te flatte dans le sens du poil en te proposant ce que tu aimes. Même chose en littérature sur Amazon. Autrement dit, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est souvent c'est des playlists, c'est des choix qu'on n'a pas fait nous-mêmes, dans le fond. On entend souvent dire que le numérique a tout de même permis l'émergence d'artistes qui n'auraient pas eu accès aux moyens de diffusion traditionnels auparavant. C'est une bonne chose, non? Oui, on se félicitait d'avoir coupé les intermédiaires, mais on a tout coupé et les nouveaux intermédiaires sont pires que les précédents. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contenu qu'auparavant et ils sont de qualité. Je vois des jeunes avec des baccalauréats et des maîtrises en interprétation et en composition qui sont placés à la maison symphonique. Ils gagnent peut-être 15 000 $ par année. Combien de temps pourront-ils faire ça? Il y en a une couple qui vont réussir sur le lot, mais que feront tous les autres? Je suis pour l'Internet, je n'ai aucune nostalgie et je n'écoute que des produits numérisés, malgré ma collection de 20 000 CD. 20 000 CD quand même.
C'est bon.
J'espère que sa compagnie d'assurance est au courant. Si la maison brûle, vient de perdre pas mal. C'est une question de rétribution équitable et de respect des créateurs de contenu. Les gens pensent qu'un artiste comme Tire le Coyote est riche parce qu'il a été invité à Tout le monde en parle et que son disque a du succès. Mais ton livre montre bien que c'est loin d'être le cas et que les artistes en arrachent. À mon avis, Tire le Coyote doit faire le salaire d'un travailleur de garderie, pas le salaire d'un professionnel. Mais son salaire, ça va durer combien de temps? 3 ou 4 ans? Ensuite, que va-t-il lui arriver? Sans vouloir être nostalgique, avant, les gens qui n'étaient pas des mégastars pouvaient remplir leur cochon durant quelques années pour se constituer un fonds, une petite caisse de retraite. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. On sait que les artistes reçoivent quelques sous à peine avec les services de musique en continu comme Spotify ou Apple Music. Or, ces services sont très populaires et nous, consommateurs, on se sent un peu responsable que des artistes qu'on aime reçoivent si peu. Que peut-on faire? Il faut faire attention à la responsabilisation des consommateurs. Si tu es dans la classe moyenne, tu as payé ta connexion Internet, tu as acheté ton cell, ta tablette, ton ordinateur portable et ceux des enfants, combien te restait-il pour les contenus? Et ça, c'est une chose, quand j'ai lu l'article, c'est quelque chose qui m'a frappé. Quand on était plus jeune, effectivement, on n'avait pas toutes ces dépenses-là. Ces choses-là n'existaient pas. Donc, si on aimait de la musique, on allait acheter le disque ou peu importe. Mais aujourd'hui, on a déjà à avoir payé tous les outils qui nous permettent d'écouter cette musique-là. On n'a plus moyen de payer pour la musique elle-même. C'est un petit peu... c'est ça. Il ne reste pas grand-chose. Il y a 25 ou 30 ans, le rapport était inversé. Tu pouvais acheter plusieurs livres, aller voir plusieurs shows, consommer plusieurs contenus, et tu payais environ 50 $ pour ton téléphone et ton câble. Aujourd'hui, c'est entre 200 et 300 par mois pour ces services. Or, il faut que tu vives, que tu nourris ta famille, que tu payes ton loyer. Alors, la responsabilité du consommateur, c'est bien relatif. Y a-t-il des solutions pour renverser la vapeur ou est-il trop tard? Disons que je suis pessimiste à court terme et optimiste à long terme. Je crois qu'on peut agir sur 3 fronts, politique, juridique et aussi par la responsabilisation personnelle et la prise en charge des artistes. La solution politique est internationale. Elle ne peut pas se régler seulement au Québec ou au Canada. On s'entend que Spotify, toutes ces choses-là, c'est international. Ça va rentrer chez nous par Internet, même si on réglemente au Québec. Ça prendra une masse critique de nations pour contraindre les géants de l'Internet, Amazon, Google, Netflix, etc., à partager leurs bénéfices et payer leurs taxes. Même si Google perdait 30 % de ses revenus par année, il ne serait vraiment pas dans la merde. Le problème, c'est la pensée libertarienne qui domine dans cette affaire-là. Sur le front juridique, il faut transformer les termes autour de la notion de propriété intellectuelle, termes qui sont les mêmes qu'au milieu du 19e siècle. On ne peut plus interdire la reproduction, le partage et la diffusion de contenu. C'est impossible depuis l'an 2000, depuis l'arrivée de Napster. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Napster. C'était vraiment les débuts de l'échange en ligne de fichiers MP3.
Ah.
Quand la musique a commencé à être numérisée, dans le fond, c'était sur CD. Et là, après ça, il y en a qui ont réussi à compresser ces fichiers-là pour faire des fichiers 10 fois plus petits. Donc là, ça devenait plus facile de les échanger sur Internet. Là, il y a Napster qui est arrivé. C'est un site d'échange. On disait, mettez vos MP3 là-dessus, tout le monde va y avoir accès. C'est gratuit, c'est la belle vie. Donc ça, ça a vraiment parti de la controverse. Depuis ce temps-là, les compagnies ont commencé à réglementer un peu et on peut maintenant acheter les MP3 sur Internet. Mais avant, on s'échangeait ça gratuitement. Donc, depuis l'arrivée de Napster, ensuite, la propriété intellectuelle doit migrer vers un droit à la rémunération. Tu souhaites aussi que les artistes se prennent en main. Les artistes travaillent en vase clos. Il va falloir qu'ils se réveillent. Ils doivent se solidariser, créer des groupes de pression et se prendre en charge sur le plan économique. Je suis très à gauche depuis toujours, mais je ne suis plus dans la gauche politique seulement. Elle a démontré son incapacité à changer les choses. Depuis 50 ans, chaque fois qu'elle prend le pouvoir, elle est déstabilisée par l'économie. Or, l'économie n'est pas à gauche, et l'économie est beaucoup plus puissante que la politique, qui dure 4 ans. Il y a des conditions qui font que c'est impossible, par l'entremise de la politique, de changer des choses. Il faut plutôt créer un pôle progressiste de l'économie. Il faut rester dans le marché, être compétitif, gagner beaucoup d'argent et répartir cet argent-là équitablement. Il faut s'inscrire dans une force qui va prendre de plus en plus de place dans l'économie mondiale, sans renier l'économie de marché. Je crois beaucoup à ça. Donc, le livre, c'est « La misère des niches, musique et numérique, alerte sur les enjeux d'une mutation », écrit par Alain Brunet sur XYZ. Et j'ai hâte de voir comment ça va, comment ça va progresser, tout ça. Parce que ça, le marché de la musique change beaucoup. Déjà dans les années 50-60, quand on vendait des vinyles, c'était quand même les compagnies de disques, les gérants d'artistes, tout ça, qui faisaient de l'argent. Les artistes n'en faisaient pas beaucoup. Non. Seulement ceux qui devenaient des super grandes vedettes en faisaient.
Ouais.
Un peu comme aujourd'hui.
Ouais, il y avait, moi, j'ai entendu une entrevue avec Nicole Martin qui disait justement pourquoi elle a décidé de partir être sa propre productrice. Elle disait, je faisais pas de sous avec mes enregistrements. Elle dit, tout le monde faisait des scènes, mais pas moi.
Ouais, et même les grandes vedettes, ceux qui ont vraiment fait de l'argent, c'est ceux qui ont pris les choses en main, les affaires en main, ils ont parti leur propre compagnie de disques. Rolling Stones Records, Madonna et compagnie, ils ont leur propre compagnie et c'est comme ça qu'ils font de l'argent.
Est-ce que même une fille comme Madonna, une artiste comme Madonna, si elle était engagée, c'était un producteur privé, elle ferait
moins d'argent.
Avec le nom qu'elle
a. Oui, elle ferait beaucoup d'argent quand même, mais elle en ferait moins. Là, elle a le contrôle sur toute sa business. Comme Prince avait le contrôle, il y a eu toutes sortes de contrôles.
Comme Celine Dion aussi, après le décès de Don Angelis. I am the boss now.
Oui, the boss. Effectivement. Donc, prochain article, on a parlé de pont.
Oui, un pont solide comme l'Union nationale. Un article toujours de Jacques Lacourcière dans le Cap au Diamant de l'automne 2005. Alors, depuis 1833, un pont relie Cap de la Madeleine à Trois-Rivières. À la fin des années 1940, le quatrième pont ne correspond plus aux besoins d'une circulation qui ne cesse de croître, évidemment, avec l'arrivée de l'automobile. La décision est alors prise d'ériger une construction qui répond aux besoins du temps, mais aussi au développement éventuel des deux villes sœurs. La compagnie Dufresne Engineering, c'est ça, qui figure parmi les souscripteurs à la Caisse de l'Union nationale, obtient le contrat de construction. Le 6 juin 1948, à quelques jours du déclenchement d'une élection générale, a lieu l'inauguration officielle du pont, qui reçoit le nom de Duplessis.
Ah, OK.
Le pont Maurice Duplessis. Ouais. Fallait le faire. Il n'y a même pas... Tu sais, normalement, t'attends une couple d'années où, quand la personne est décédée.
Son vivant, ouais, il doit être honoré.
Alors, en présence, comme ça se faisait à l'époque, là, de Monseigneur Hormidas Trudel, curé de la cathédrale de Trois-Rivières.
Pour bénir le pont, j'imagine, oui.
Et vicaire général du diocèse, le premier ministre Maurice Duplessis coupe le ruban symbolique avec des ciseaux en or. Celui-ci déclare « Ce pont est aussi solide que l'Union nationale ».
Voilà.
Et voilà.
Des choses qu'on regrette d'avoir dit.
Oui. Au cours de la nuit du mercredi 31 janvier 1951, alors qu'un froid intense s'abat sur la région, trois travées du pont s'écroulent dans la rivière Saint-Maurice. Six personnes qui étaient en voiture sur le pont trouvent la mort. À l'ouverture de la réunion de l'Assemblée législative, au début de l'après-midi du même jour, Duplessis déclare « Ce sont les éléments subversifs qui parcourent la province qui sont à l'origine de la chute du pont. »
Et voilà. L'analyse a été assez courte.
Les communistes témoins de Jéhovah, Par hasard, ce jour-là, j'étais présent au Parlement, note M. Lacourcière. Notre demi-journée de congé au Collège de Lévis était justement le mercredi. J'en profitais souvent pour aller écouter les propos des représentants du peuple. Je me rappelle que le premier ministre, la figure rougie, s'était tourné vers la galerie de la presse pour faire sa déclaration. Il n'aimait pas le journalisme du plaisir. Pour plusieurs, l'effondrement d'une partie du pont Duplessis était inexplicable. Au cours du mois de mai suivant, le premier ministre charge le juge René Lippé de présider une commission d'enquête. Entre-temps, pour établir une partie de la circulation entre Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières, on procède à la construction d'un pont Bailey, un pont temporaire utilisé par l'armée canadienne. De plus, des trains spéciaux du CPR mettent Canadian Pacific Railroad à l'époque, l'ancêtre du Canadien National, le CPR, voyons, c'est quoi maintenant?
Via Rail.
Ah, Via Rail, oui, c'est ça. Je pense. Permettent à des centaines de personnes d'aller d'une ville à l'autre. À cela s'ajoutent des bateaux passeurs. Le 21 novembre 1951, la commission d'enquête remet son rapport qui ne conclut presque rien.
Ah, ben, pas d'analyse.
Ben non, regardons ça. Personne n'a été capable d'expliquer la cause de l'accident, dit-on. Les enquêteurs avaient examiné avec soin des pièces du pont qui avaient été retirées de l'eau et qui étaient gardées 24 heures par jour. Certains affirment que le métal utilisé n'était peut-être pas de première qualité et qu'il y avait des failles. J. Alfred Mongrain, maire de Trois-Rivières, tire à boulet rouge sur Duplessis, multipliant les accusations. Lors des élections générales de 1952, il se porte candidat libéral contre le chef de l'Union nationale. Donc, c'était 4 ans après cette histoire-là, déclarant à tout propos « Duplessis tombera comme son pont ». Le soir du 16 juillet, Duplessis est reporté au pouvoir avec plus de 5000 voix de majorité. Le nouveau pont sera accessible à la circulation le 12 novembre 1953 sans qu'aucune accusation n'ait été portée contre la compagnie constructrice.
Mais voilà.
Jacques Lacourcière est historien et membre de la Société royale du Canada. Monsieur Duplessis avait un sens de la réplique assez particulier. Hein?
Apparemment, oui. Il était assez direct. Puis,
Comme à un moment donné, un député d'opposition posait une question à un ministre et Duplessis n'a pas voulu qu'il réponde. Fait, Duplessis, il a juste lancé « Toi, tais-toi », puis il s'est levé, puis il a répondu.
C'est «
Toi, tais-toi », là, puis il s'est répondu. Un autre tantôt, j'ai tout le temps de la compter, il reste combien de temps? Oui. Le chef d'opposition, c'était Godbout.
Oui.
Et Duplessis avait toujours l'habitude de répondre assis, alors que ça se fait pas. Quand on te pose une question, tu réponds debout par respect. Et à un moment donné, quelqu'un a dit, ben écoutez, M. Duplessis, pourquoi vous répondez assis? Il avait dit, pour pas qu'on me traite de Godbout.
Ah! Méchant joke de jeu de mots. Ouais. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On vous remercie d'avoir écouté tout au long. Merci à Serge Bradet. Merci.
Plaisir.
Merci à Maurice, à la mise en onde. Et merci à Isabelle qui s'est rendue jusqu'ici, qui a dû retourner chez
un
elle.
Un beau bonjour à elle de chez elle.
Bonjour à Isabelle. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, les voix de service. Et tantôt, on cède le micro à Hélène pour le quotidien des quotidiens.
Notre chère Hélène Denis.
Notre chère Hélène
Denis. Nous aimons beaucoup.
Bonne journée.